Mon invité aujourd'hui est docteur. Bien connu à travers le monde en tant que conférencier, il est également l'auteur de plusieurs ouvrages dont le bien célèbre Pensouillard le hamster. Je reçois Serge Marquis.
Vous écoutez le balado « C'est la femme qui mène ». Le balado pour les femmes entrepreneurs et les gestionnaires qui vous proposent des discussions sur des sujets qui vous feront réfléchir et vous inspireront à devenir la meilleure version de vous-même en tant que leader bienveillante. Joignez-vous à moi et mes invités pour briser les tabous, changer les paradigmes et démarrer une nouvelle conversation qui défie les modèles du leadership traditionnel. Je suis Geneviève Mas et je suis votre hôte pour cette série.
Serge Marquis, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Écoutez, je vous ai présenté tout à l'heure comme étant un docteur, comme auteur, comme conférencier. Si vous aviez à vous présenter à quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que vous diriez exactement?
Je dirais que je suis un être passionné par comment soulager ou apaiser la souffrance humaine. Je dirais que c'est ce qui me passionne dans la vie depuis que je suis adolescent. Et c'est comme ça que je me présenterai. Je suis un être passionné par la vie et ce qui l'empêche de circuler librement, disons ça comme ça, et ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas utiliser pleinement son potentiel. Alors, comment soulever ces entraves-là? Comment se débarrasser de ces blocages-là pour que notre créativité, que toutes nos merveilleuses capacités puissent s'exprimer librement.
Un révélateur de potentiel.
Ouais, en partie, okay. Ouais, je dirais que c'est ce qui me passionne chez l'être humain, le fait de permettre à chaque être humain de développer ses talents, son potentiel, ses capacités, ouais.
J'adore ça, non, c'est intéressant. En fait, vous avez fait une carrière de votre passion, une brillante carrière de votre passion.
Merci, c'est gentil.
Écoutez, j'espère que vous m'en voudrez pas de vous poser la question, mais on traverse une crise assez singulière, majeure, au Québec, partout dans le monde également. Puis j'aimerais qu'on en reparle tout à l'heure d'un point de vue professionnel, mais vous, personnellement, comment vous la vivez, cette crise-là?
Je dirais que il y a deux choses. La première, évidemment, comme pour tous les êtres humains, c'est une situation que je trouve difficile. Et c'est très important que je le dise parce qu'il faut surtout pas nier cet aspect-là, à mes yeux. C'est important de pas tomber dans le piège du déni. Il y a trop de personnes encore qui, malheureusement, sont dans le déni et n'adoptent pas les comportements qu'on doit adopter. Donc, premier élément, c'est une situation que je trouve difficile et ça m'aide de la trouver difficile parce que ça m'oblige à adopter les comportements qu'on doit adopter. Puis il y a le deuxième élément qui est, je trouve que on a besoin d'espoir présentement, parce que quand on regarde les médias, c'est souvent, je sais pas toujours, mais souvent décourageant. C'est comme si on voyait pas la fin de cette crise-là. Okay. Et c'est très important de trouver. Et ça, j'essaie de le faire, j'essaie d'en parler aux gens qui m'entourent, les personnes qui me sont précieuses, de leur montrer les endroits où il y a de l'espoir, de leur montrer la vieille phrase, le vieux cliché, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, parce qu'elle existe, cette lumière-là. Donc, il faut aussi la voir. Il faut voir les deux dimensions.
La partie
où il y a de la difficulté, on a des peurs, c'est sain de voir ça. Puis les parties où on sait que ça va avoir une fin. C'est donc important de voir les deux.
Absolument. Puis c'est intéressant parce que effectivement il faut voir la peur. Je crois que ça nous aide à adopter les bons comportements. Mais je la vois aussi, en fait, cet espoir-là, sans vouloir minimiser, encore une fois, c'est un moment très anxiogène. Il y a des décès, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'isolement. Mais je vois des artistes qui se rassemblent. Je vois des gens qui connectent avec leur famille, avec leurs amis. On montre à grand-maman comment utiliser les différentes plateformes virtuelles, tu sais, ça nous unit autour d'un même problème, ce qu'on voyait plus nécessairement dans un pays plus industrialisé, je trouve. Donc, c'est cette lueur d'espoir-là qui, je trouve, nous fait du bien, en quelque sorte.
Moi, ça me permet de connecter avec mes petits-fils, 4 ans et 1 an, tous les jours. Chose que je ne faisais évidemment pas en dehors de cette période-là. Et ça m'oblige à inventer toutes sortes de choses. Je me suis transformé au cours des dernières journées en pirate qui creusait dans le jardin derrière la maison pour trouver des trésors que j'avais évidemment enfouis là la veille. Et je pouvais déterrer le coffre. Ça, c'est très important parce que cette connexion-là en soi est agréable, mais ça me permet aussi d'amener mon attention sur quelque chose de précieux plutôt que de la laisser être happée par toutes les dimensions obscures de cette crise-là, de cette période-là.
Mmh, tout à fait. Vous en parlez beaucoup, en fait, de ramener cette attention-là, notamment dans votre ouvrage « Pensouillard, le hamster », dans vos conférences également, vous le nommez beaucoup. J'aimerais revenir sur votre ouvrage. Parlez-moi de la genèse de ce livre-là.
J'ai soigné pendant une trentaine d'années des personnes qui ne fonctionnaient plus au travail. Et des personnes qui arrivaient dans mon bureau brûlées, vidées, épuisées, puis qui disaient, vous savez, je sais plus où je m'en vais, je sais plus qui je suis. Ça, c'est deux phrases sur lesquelles je reviens souvent parce que les personnes avaient ça en commun. Je sais plus qui je suis, c'est une dimension identitaire, puis je sais plus où je m'en vais, c'est une question de sens, le sens de leur vie, le sens de leur travail, etc. Et je suggérais toutes sortes de lectures à ces personnes-là pour les aider à se retrouver, en fait. Et il y a des gens qui ont fini par me dire, écoutez, vous me suggérez des livres, puis après 3-4 pages, on y est perdu. Pourquoi vous n'écrivez pas quelque chose vous-même? Puis finalement, ben, à force de me faire suggérer ça, j'ai fini par m'atteler à la tâche, puis écrire Pensouillard le hamster. Pourquoi Pensouillard? Parce que je trouvais que c'était une métaphore extraordinaire. Ça m'a été donné, ça, par une petite fille qui avait 7 ans à l'époque, la fille d'un de mes grands amis, chez qui j'étais allé souper. Et elle m'avait dit, quand j'étais entré dans leur maison, « Viens voir mon zoo. » Alors, je l'avais suivi. Puis, quand j'étais arrivé dans la porte de sa chambre, il y avait un hamster, un cochon d'Inde, des poissons, des oiseaux, etc. Et là, elle m'a amené devant la cage du hamster. Et c'est la première fois de ma vie que j'en voyais un live, en train de courir dans une roue. Et ça, ça, excusez le mot encore une fois, mais ça a flashé dans ma tête. Je me suis dit, hey, c'est ce qui se passe dans ma tête, ça. Ça tourne, mais ça va nulle part, tu sais. Pourquoi est-ce toujours à moi que ça arrive? Blablabla. Je ne trouvais pas de solution et je tournais les problématiques dans ma tête comme le hamster tourne dans sa roue. Alors, je me suis dit, on va servir de cette métaphore-là parce que ça, ça va être utile. Ça va permettre à des gens de devenir conscients. Ça va permettre à des gens de se dire, tiens, mon hamster vient de repartir et ça va leur permettre de l'apaiser, de le calmer pour ramener leur attention dans le présent et d'utiliser, encore une fois, leur créativité pour trouver des solutions aux difficultés qu'ils traversent. Alors, c'est grâce à cette petite fille que cette image m'est venue. Ça m'a pris 10 ans d'écrire ce livre-là. La première version avait 670 pages. J'ai déposé ça chez l'éditeur. Il m'a rappelé 2 mois plus tard, puis il m'a dit, j'ai lu ton livre, je vais le publier, mais à une condition, que tu en coupes 400 pages. Alors, j'ai dit, ben écoute, c'est un beau défi, parce que c'est un livre qui parle aussi de notre ego. Alors, quelle belle façon d'apaiser son ego que d'être devant son ordinateur, puis de couper des pages qu'on a pris des heures à écrire en se disant, ça ajoute rien.
Qu'on juge toutes importantes, en fait, chacune des pages sont importantes.
Absolument. Donc, gardons l'essentiel. Mm-hmm. Allons à l'essentiel pour que le message soit clair, puis que ça puisse en même temps amuser les personnes et qu'il en reste quelque chose. Que ces personnes-là puissent s'en servir au quotidien, pour elles-mêmes et avec les personnes qui les entourent. Parce que ça, c'est bien important. Quand il y a 2 personnes qui ont lu le livre et qui vivent ensemble, elles peuvent s'entraider. « Hey, c'est ton hamster qui vient de partir. Mm-hmm. » Et là, elles peuvent l'apaiser en s'entraînant.
Tout à fait.
Alors, voilà.
C'est un livre extrêmement bien fait, qui est une référence, en fait. Vous parlez beaucoup de décroissance personnelle. On entend souvent le contraire. On entend parler de croissance personnelle, mais vous, vous nous dites, en fait, qu'il faut décroître. Donc, la décroissance personnelle, c'est quoi exactement?
C'est une super bonne question, ça, Geneviève, parce que aujourd'hui, la réaction de stress à notre époque, puis là, on la vit beaucoup dans la période qu'on traverse, elle est souvent générée par la perception que le cerveau d'une menace à notre ego, c'est-à-dire aux représentations que nous avons nous-mêmes. Notre cerveau fabrique, et c'est fascinant parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre image. Il déclenche la même réaction primitive de lutte ou de fuite dans les deux cas. Il suffit qu'on ait l'impression que ce qu'on dit n'est pas apprécié pour que le cerveau déclenche la même réaction que si on entendait le rugissement d'un fauve. C'est quand même pas banal. Alors, décroissance personnelle. Une des raisons pour lesquelles j'ai parlé de ça, c'est que toute notre vie, on fabrique des images de soi-même. Il y a un processus à l'intérieur de nous qu'on appelle un processus d'identification qui fait en sorte qu'on s'identifie tout le temps, tous les jours, à plein de choses. On peut s'identifier à une équipe de hockey, on peut s'identifier à un vêtement qu'on porte, on peut s'identifier à une opinion qu'on a, à un travail qu'on vient de faire, peu importe. À chaque fois qu'on a l'impression qu'une de ces identités est menacée, une de ces fausses identités est menacée, notre corps entre dans la réaction de lutte ou fuite. Par conséquent, si je suis avec ma conjointe et qu'elle n'est pas d'accord avec quelque chose que je viens de dire et que je me suis identifié complètement à ce que j'étais en train de dire, je peux entrer dans la réaction de lutte ou de fuite. Un exemple que je donne toujours à ce sujet-là, je suis en train de laver la vaisselle. Ma conjointe revient du travail. C'est un exemple vrai, ça. Elle revient du travail. Je lui ai demandé la permission de l'utiliser. Elle revient du travail. Je suis en train de laver la vaisselle. Je verse une goutte de savon sur une assiette. Et là, elle me dit, tu mets bien trop de savon. Instantanément, le cerveau, qui veut toujours entretenir une image parfaite de lui-même, perçoit ça comme une attaque à son image. Elle apparaît la réaction de lutte ou de fuite. Dans mon cerveau, elle ne le sait pas, le hamster recommence à courir. Et il dit, qu'est-ce qu'elle en sait, elle, la quantité de savon à mettre? Est-ce qu'elle a un doctorat en savon, elle? Etc., etc. Et si je m'entraîne, je peux m'en rendre compte. Et au lieu d'aller dans la réaction de lutte, qu'est-ce que tu en sais de la quantité de savon qu'on a à mettre? Donc, de le verbaliser et de lui dire, as-tu un doctorat en savon, toi? Ce qui serait une attaque à son égo. Ou d'aller dans la fuite, de lui dire « Fais là, t'as foutu vaisselle, moi je me désormais, ça c'est la fuite. » Au lieu de faire ça, j'observe mon hamster, je l'apaise en ramenant mon attention dans le présent sur quelque chose de concret. Ça peut être la propreté de l'assiette qui apparaît ou ma respiration, peu importe. Je me calme et là je peux entrer dans un dialogue en lui disant « As-tu passé une bonne journée aujourd'hui ou est-ce qu'on peut parler de ta journée? » Plutôt que d'aller dans la lutte ou la fuite, « Fallait ta foutue vaisselle ou qu'est-ce que tu as assez de la quantité de savon à mettre? » Ça change tout. Mm-hmm. Ça change tout. Et ça, c'est la décroissance personnelle. C'est-à-dire se libérer du pouvoir de toutes ces images qu'on fabrique de soi-même chaque jour. Moi, je compare notre ego à un oignon qui est fait de plusieurs pelures identitaires. Et c'est de ces pelures-là dont on doit se débarrasser pour revenir à ce que nous sommes vraiment. Parce que nous ne sommes pas notre ego. Qu'est-ce que nous sommes? Et j'utilise une phrase que j'emprunte à une femme qui s'appelle Marie de Hennezel, une psychologue française, qui un jour, dans une conférence, a dit « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » C'est une des plus belles phrases que j'ai entendues de ma vie. Toutes les pelures identitaires vieillissent. Si je m'identifie à ma voiture, après 4-5 ans, mon identité va devoir changer. Parce que, ou je peux la garder 10 ans, mais ce sera 10 ans, elle va devoir changer. Mm-hmm. Parce que mon auto, elle n'a plus, elle ne fonctionne plus là, comme elle fonctionnait quand je l'ai achetée ou quand je l'ai louée, peu importe. Alors, c'est donc important de réaliser que toutes les pelures identitaires, elles, se transforment. Mes opinions se transforment, changent d'opinion dans la vie. Mais que ce qui en moi ne vieillit jamais, ça ne se transforme pas. Et qu'est-ce qui en moi ne vieillit jamais? De merveilleuses capacités. La capacité d'être présent ou présente, ça ne vieillit jamais. Marie de Hennezel, qui travaillait dans les soins palliatifs, disait que dans les dernières heures de leur vie, les personnes étaient encore présentes ou présentes aux gens qui les entouraient. Et cette capacité d'être attentif, d'être présent, présente, est au cœur de plein d'autres capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais, ça. Il y a des gens aux soins palliatifs qui expriment leur amour aux personnes qui les entourent. La capacité de s'émerveiller, ça ne vieillit jamais. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle était enceinte de jumeaux et qu'elle avait accouché au moment où sa mère était entrée aux soins palliatifs et qu'elle a pu aller lui montrer les jumeaux. Et elle m'a parlé du visage de sa mère, ses yeux pleins d'étoiles. Sa capacité de s'émerveiller n'avait pas vieilli. Elle était encore là. Il y a la capacité de créer, ça ne vieillit jamais. Il y a des gens dans les dernières heures de leur vie qui réclament un crayon pour dessiner, écrire, etc. La capacité d'apprendre, ça ne vieillit pas non plus. La capacité de transmettre, ça ne vieillit pas. J'ai perdu un grand ami, moi, puis 2 jours avant qu'il décède, j'étais avec lui. Il m'a pris par les bras, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit « Les personnes que tu aimes, prends le temps de les regarder. » Il est en train de transmettre, 2 jours avant de mourir. Alors, donc, pour avoir accès à ces capacités-là, il faut décroître, c'est-à-dire laisser aller toutes les pelures auxquelles on s'identifie et qui, elles, finissent par se transformer au cours de notre vie. Et ces pelures-là, ça peut être aussi bien des choses qu'on possède. On s'identifie à un stylo, on s'identifie à une chemise, on s'identifie à toutes sortes d'affaires. Et c'est ça, décroître.
C'est revenir un peu dans l'être avant d'être dans le avoir, finalement.
Oui, c'est qu'on confond les deux. Par exemple, on s'identifie beaucoup à ce que nous faisons. On s'identifie à son travail. Moi, j'ai vu des personnes dans mon bureau pendant 30 ans qui, malheureusement, ne fonctionnaient plus au travail et qui avaient l'impression de n'être plus rien. J'ai vu des personnes dire dans mon bureau « Je suis devenu un déchet social » parce qu'elles avaient perdu leur travail. Donc, elles étaient tellement identifiées à leur travail que, n'ayant plus leur travail, elles avaient l'impression de n'être plus, de ne plus exister. Et là, elles fabriquaient d'autres pelures identitaires. Je vaux plus rien, je suis un déchet social. À cause du regard qu'elles croyaient que les gens avaient sur elles. Vous me suivez hein, quand je vous dis ça. Alors, c'est très, très important parce que si je deviens conscient, de plus en plus alerte, je me rends compte que toutes ces pelures identitaires, c'est pas ce que je suis. Et je ramène mon attention sur ce qui en moi ne vieillit jamais. Et je peux le faire en me posant simplement la question. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Est-ce que ma capacité de transmettre est menacée? Moi, j'ai vu des gens dans mon bureau là, qui venaient parce qu'ils étaient supposément en burn-out, puis ils venaient de vivre une rupture. Et ils avaient l'impression que la personne qui les avait quittés était partie avec leur capacité d'aimer, qui s'était fait voler leur capacité d'aimer. Et quand on regardait ça ensemble, puis que la personne devenait capable de dire « Hey, je suis encore capable d'aimer, même si elle est partie », elle se transformait. C'était fascinant de voir ça. Parce qu'elle redevenait en contact avec ce qui en elle ne vieillit jamais.
Puis qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là pour qu'ils soient capables de reconnecter justement avec leur être ou leur capacité qui ne vieillissent jamais?
En fait, on marche ensemble, on s'accompagne l'un l'autre hein, pour le découvrir. Parfois, je leur dis juste avant de dormir là, le soir, quand vous êtes, couchez-vous sur le dos, là, c'est aussi concret que ça. Et explorez ce qui, en cours de journée, ont été les moments où ce qui en nous, en vous, pardon, ne vieillit jamais, a été présent. Quand est-ce que pendant la journée, vous avez été vraiment présent aux personnes qui vous entouraient? Et retrouvez un de ces moments-là et vous allez vous reconnecter avec ce qui en vous ne vieillit jamais. Par exemple, à l'heure du souper, avez-vous écouté votre conjointe, votre conjoint quand il vous a parlé de sa journée? Avez-vous écouté vos enfants quand ils vous ont parlé de la difficulté qu'il y avait eu à l'école parce qu'il n'avait pas été choisi quand il avait voulu poser une question? Les avez-vous écoutés vraiment? Ben, si vous les avez écoutés vraiment, là, rebranchez-vous là-dessus et vous allez rebrancher sur ce qui en vous ne vieillit jamais. Alors, on explore chacun de ces moments-là et je les invite à le faire par la suite pendant la journée, dans les jours qui vont suivre notre rencontre. On devient de plus en plus vigilant. On devient de plus en plus alerte. Puis on se rend compte à quel point on se perd quand on veut à tout prix défendre une opinion comme s'il en allait de notre survie. Et j'insiste là-dessus, hein, parce que c'est ce que le cerveau fait. Le cerveau veut défendre une opinion comme s'il en allait de notre survie. Il est prêt à se battre pour défendre l'opinion. Il est prêt à sauver à Tombouctou pour défendre une opinion, la garder pour lui-même. Alors, plus on devient vigilant, plus on devient alerte, plus on pense aux vraies affaires. On ne défend plus une opinion comme si elle allait de notre survie. On met en commun notre opinion avec celle de l'autre, puis on essaie de tirer le meilleur des deux opinions.
C'est magnifique. C'est, effectivement, je crois que c'est ce qui marquera le plus nos auditeurs aujourd'hui. Cette capacité-là de retrouver en nous ce qui ne vieillit jamais. Et puis, l'attention. Moi, je vous ai découvert, en fait, alors que j'étais en voyage et puis j'avais beaucoup de temps devant moi, beaucoup de temps pour réfléchir, pour m'instruire. Je regardais des vidéos, vos conférences, j'ai lu votre livre. Et puis, j'ai réalisé à quel point on ne met pas notre attention sur la bonne chose. Et puis, vous aviez donné l'exemple de quelqu'un qui allait voir un spectacle et qui se demandait s'il avait verrouillé sa voiture ou non et qui passait toute la première partie du spectacle à avoir hâte à l'entracte pour aller verrouiller son auto. Mais ça m'est déjà arrivé textuellement et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vrai qu'on ne met pas notre attention sur les bonnes choses. Puis en même temps, on est tellement dans un monde où de surstimulation, de surconsommation, de surperformance également. Puis je trouve ça difficile, en fait, parce qu'on le sait qu'on se fait du mal. Ça atteint notre santé mentale. On sait qu'on se fait du mal, mais on réplique ces comportements-là toujours. Qu'est-ce qui fait qu'on retombe toujours dans le panneau, en fait?
C'est une question que à laquelle je vais répondre même en, pardonnez-moi, en utilisant la crise actuelle. Parce que le cerveau a été conditionné pendant des millions d'années, à privilégier de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Il a fallu qu'il fasse, parce que quand on marchait dans la plaine, il fallait que notre attention soit complètement sur le moindre changement qu'il y avait dans l'environnement, les bruits qui pouvaient paraître menaçants, le changement, dans le mouvement dans les feuilles d'un arbre, bon, ces choses-là. Donc, il fallait, pour assurer notre survie pendant des millions d'années, quand on marchait encore une fois dans la plaine, percevoir les menaces. Il fallait. Aujourd'hui, notre cerveau réagit, comme je le disais tout à l'heure, à des menaces qui n'en sont pas. Mais il les cherche encore. Il les cherche tout le temps. C'est pour ça qu'il faut devenir vigilant. C'est un vieux conditionnement dont on doit se défaire. C'est un conditionnement très primitif. Puis actuellement, pire que jamais, parce que là, il y a une partie de ce qu'on vit, qui est associé à la survie de chaque individu. On ne veut pas l'attraper, le fichu virus, hein, parce qu'on ne veut pas être malade, puis bon, se retrouver dans des conditions difficiles. Alors, le cerveau cherche constamment de l'information pour être capable de prévenir une situation menaçante et assurer la survie. Ça, c'est normal. Là où c'est subtil, c'est que très rapidement, l'attention est accaparée par la dimension menaçante. Ça stimule le hamster. C'est épouvantable, on s'en sortira jamais, c'est la fin du monde, etc. Ça, c'est le hamster. Plutôt que de ramener son attention sur le moment présent ou encore sur les pistes d'action possibles pour nous. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est bien beau ramener l'attention dans le présent, mais qu'est-ce que je fais? » Ouais, mais pour répondre à la question « Qu'est-ce que je fais? » il faut ramener l'attention dans le présent. Parce que si votre attention est uniquement en train de construire des scénarios catastrophes, elle n'est pas en train de faire l'inventaire des pistes d'action possibles pour vous. Donc, s'entraîner à observer où est notre attention, c'est aussi se donner les moyens de le ramener sur la capacité, notre créativité et notre capacité à trouver des solutions aux situations dans lesquelles nous sommes. Présentement, là, les solutions qui nous appartiennent comme individus, c'est celles dont on nous parle. Hein, là, présentement, il faut se laver les mains, il faut appliquer aller dans le confinement, appliquer la distanciation sociale. C'est ça qu'il faut faire. Il faut revenir là-dessus constamment. Pas perdre ça de vue. Puis l'autre chose importante aussi, c'est de ramener l'attention sur ce qui peut nous apporter un peu de lumière dans le contexte difficile qu'on traverse. On en a parlé tout à l'heure. Les personnes qui nous entourent, les activités qu'on peut faire, déguster un thé qu'on aime, ça a l'air banal, hein? Mais je peux amener complètement mon attention présentement, là. je vais loin, je vais très, très loin. Je découvre des saveurs que je n'avais jamais découvertes avant dans ma vie parce que je n'avais pas amené mon attention sur ces saveurs-là.
Mm-hmm.
Et je le fais volontairement parce que de toute façon, pendant que je mange, j'ai rien que ça à faire. Alors, c'est très important, ça.
C'est une forme de méditation active, finalement.
Oui, quand on parle de méditation, de méditation pleine conscience, là, c'est ça que ça veut dire. Puis ça, c'est pas nécessairement s'asseoir en lotus, là, dans des positions qui sont pas nécessairement confortables pour tout le monde. Tant mieux si c'est confortable. Ça veut dire découvrir où est notre attention. Il y a un médecin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Richard Moss, qui travaillait sur l'anxiété et qui conseillait à ses patients de méditer. Puis il y a beaucoup de patients qui lui disaient « j'ai pas le temps de méditer, j'ai une journée de fou, bon blablabla. » Richard Moss répondait « quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. » J'ai jamais oublié ça. Et c'est très vrai. Parce que pour écouter une autre personne vraiment, il faut que je découvre mon attention. Parce que pendant que la personne me parle, je peux déjà être en train de commenter ses propos. Je peux déjà être en train de préparer la réponse avant même qu'elle ait fini sa phrase. Donc, je suis plus en train de l'écouter. Et si je me rends compte de ça et que je ramène mon attention sur ce qu'elle est en train de dire, c'est une forme de méditation, ça. Parce que c'est une forme d'entraînement.
Absolument. Je vais vous amener, en fait, sur votre expertise de santé mentale au travail. Vous avez rencontré, j'imagine, des centaines de personnes qui sont en détresse psychologique. C'est quoi le type de cas que vous rencontrez le plus souvent? C'est quoi la plus grande menace dans un milieu de travail?
Vouloir à tout prix être parfait ou parfaite. Vouloir à tout prix toujours performer à un niveau, performer, hein, c'est bien important, à un niveau qui ne correspond pas nécessairement aux attentes qu'ils nous ont présentées. Parfois, oui, il y a des attentes aussi qui sont très élevées et qui ne sont pas celles qu'on s'est données, qui sont celles d'une entreprise. Ça demande aussi un travail collectif parfois, pour revoir les attentes. J'ai travaillé dans des entreprises avec des décideurs et des décideuses pour regarder ensemble les attentes et faire en sorte que ça puisse correspondre au potentiel de chacune et de chacun. Et la première chose, d'ailleurs, c'est un gars qui s'appelle Freudenberger, qui était le premier à parler de burn-out dans les années 70, disait qu'il y avait toujours quatre étapes dans le burn-out. Puis que la première, c'était des attentes irréalistes. Vouloir toujours performer à la perfection, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis qu'on arrivait rapidement, bon, parfois c'est un peu plus long pour d'autres personnes, mais dans la deuxième étape qui était le plafonnement. Et les personnes se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de correspondre aux attentes irréalistes qu'elles s'étaient parfois même données elles-mêmes, là. Ça, c'est important. Et elles se mettent à travailler plus fort. On travaille le soir, la nuit, blablabla. Et là, elles arrivent dans la troisième étape parce que là, elles réalisent que ça ne fonctionne pas, c'est la désillusion. Et là, elles changent. Là, elles deviennent irritables alors qu'elles ne l'étaient pas avant, impatientes. Les gens qui les entourent leur disent d'ailleurs, « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? On ne te reconnaît plus. » Elles commencent à prendre des stimulants ou encore des médicaments pour apaiser leur anxiété, bon, etc. Puis elles disent à tout le monde, « laissez-moi faire, je vais y arriver. »
Je suis en contrôle.
Je suis en contrôle. Et c'est là que souvent tombe dans la quatrième étape, qui est la démoralisation. Et là, elle ne fonctionne plus et là, ils arrivent dans mon bureau. Et c'est là qu'elle dit, je ne sais plus qui je suis, puis je ne sais plus où je m'en vais, puis etc. Donc, c'est très important.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt des hommes ou des femmes qui sont sujets à ce type de...
Les deux sont sujets, mais c'est très important aussi comme question parce que les femmes consultent davantage encore aujourd'hui. Les hommes ont malheureusement encore tendance à nier, à entrer dans le déni plus que les femmes, malgré tout le progrès qu'on fait chez les hommes par rapport à leurs émotions puis à la capacité de les accueillir et de les exprimer. Il y a encore beaucoup de déni chez les gars. Les femmes plus facilement les accueillent et acceptent plus facilement de consulter, voient moins ça comme quelque chose de honteux, voient moins ça comme quelque chose de l'ordre de l'échec. Mais il y a aussi quelque chose de spécial chez la femme. Parce que encore aujourd'hui, malgré tous les progrès qu'on fait, beaucoup de femmes portent sur leurs épaules la famille. Beaucoup.
La fameuse charge mentale.
Exact. Et ça, c'est important parce que là aussi, il y a tendance à vouloir aller vers la perfection, être la meilleure mère, être la meilleure conjointe, la meilleure amante, la meilleure professionnelle au travail, donc la meilleure partout. Ce qui fait en sorte que pour beaucoup de femmes, les pièges sont plus nombreux sur sa route que pour le gars qui s'en fait un peu moins avec le côté perfectionniste du père, etc., etc. Alors, donc, en réponse à votre question, il y a ça aussi qui guette la femme, malheureusement. Non seulement le fait qu'elle va consulter plus facilement, mais le fait qu'elle peut être happée par plus de pièges que le gars.
Je pense aussi que la femme est peut-être plus sensible aux appels à ralentir, peut-être avoir les premiers signes justement d'un fameux burn-out. Comment c'est compatible, par exemple, une femme qui a son entreprise, qui est en affaires, comment est-ce que c'est compatible d'accorder la famille, le travail, et l'équilibre, en fait, la vie personnelle?
On ne se le cachera pas, ça aussi c'est difficile. C'est pas. Y a pas une poudre de perlimpinpin, là, poudre magique qui fera en sorte que oup, on lance ça dans les airs, puis ça y est, on a trouvé l'équilibre. Ça demande une vigilance permanente. J'aime beaucoup ce mot-là, moi. Le mot vigilance. Il faut être capable de s'accueillir dans sa vulnérabilité. Il faut être capable de se répéter régulièrement que d'abord, la perfection, ça n'existe pas, là. Ça, c'est bien important. Ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup explorées avec les personnes que j'ai vues en consultation, là. Cette espèce d'identification, je reviens à ça, là, tellement forte au travail que l'impression de ne pas réussir au travail était l'impression de ne pas être quelqu'un, hein, l'impression de ne pas exister. Ça, c'est très important d'être vigilant puis vigilant, se rendre compte que la perfection n'existe pas et que nous ne sommes pas notre travail, que nous sommes ce qui en nous ne vient jamais. Donc, on va consacrer toute cette belle énergie-là, cette capacité de créer, cette capacité de transmettre, etc., à faire notre possible pour que ça fonctionne bien dans notre entreprise. Mais en même temps, on va aussi s'accueillir dans ses imperfections et dans les difficultés qu'on traverse pour en tirer des leçons. Ça, c'est un gros cliché, ce que je dis là, mais ça reste quand même vrai. Quand il y a une difficulté, qu'est-ce que je peux apprendre? Ça, c'est une question que j'amène toujours aux gens. Répétez-vous. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Formulez comme ça. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre pour être capable d'en sortir? Et si l'autre chose importante, c'est ce que vous avez dit, d'être à l'écoute de ce que mon corps m'envoie comme signaux. L'être humain est le seul organisme vivant dans la nature qui n'écoute pas les signaux que son corps lui envoie. Le seul.
C'est intéressant, mon Dieu.
Le lion, quand il est fatigué, il se couche. Puis j'ai souvent la gazelle, quand elle est fatiguée, elle se couche, à moins que le lion soit en train de courir après. Mais tous ces animaux, quand il y a des signaux que le corps envoie, les respectent. L'être humain, c'est le seul à ne pas les respecter. Alors, si je suis une chef d'entreprise, puis mon corps m'envoie des signaux, il faut que je les écoute. Il faut que je me mette OK, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, là? Puis que je prenne un recul. Je peux même prendre une feuille de papier, puis écrire quelles sont mes priorités dans ma vie, les identifier, puis regarder quelle place elles occupent à ce moment-là dans ma vie, chacune de mes priorités. Ma famille, mon travail, mon couple, mes loisirs, mes amis, tout. Et ça ne dépend que de moi de rétablir l'équilibre entre ces priorités-là. J'aurais peut-être à laisser aller certaines choses. C'est pas facile. C'est ce qu'on appelle lâcher prise, là. Ça aussi, c'est important. Puis lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, ça. Parce qu'à notre époque, on a confondu les deux. On a confondu abandonner et lâcher prise. Abandonner, c'est avant d'avoir fait les choix. C'est avant d'avoir essayé. Lâcher prise, c'est quand j'ai tout essayé. Mais pour tout essayer, il faut que j'aie fait l'inventaire de ce que je devais faire, puis que j'aie essayé. Sinon, je ne le saurais pas. Alors, donc, ça, c'est important. Il y a des choses que je peux laisser aller alors que je pensais que je ne serais pas capable de le faire. Et ça permet de retrouver un équilibre.
Pratiquer le véritable lâcher prise, en fait. Excellent.
Absolument. C'est très précieux, très important, ça. Très, 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 très important.
Je veux m'adresser, en fait, pour la prochaine section, au docteur qui est spécialisé justement en santé publique. Je veux vous parler de la crise du COVID-19 au Québec actuellement. Les gens perdent leur emploi, des petites entreprises doivent cesser leurs activités pour une durée indéterminée. C'est très, très anxiogène. Qu'est-ce que vous craignez le plus pour ces gens-là en ce moment?
Ah, que certaines personnes... J'aimerais me dire qu'il y a certaines personnes très fragiles. Ce que je crains, c'est qu'elles basculent. Qu'elles basculent dans d'anxiété qu'elles sont plus capables de contrôler et qui peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut les amener dans la dépression. Ça peut les amener aussi dans des conflits majeurs avec les personnes qui les entourent parce qu'elles deviennent tellement irritables, qu'elles pètent les plombs pour rien, etc. Évidemment, ma plus grande crainte, c'est qu'il y a des personnes qui décident d'aller jusqu'au bout de ces choses-là, là, dans le sens où... Et malheureusement, j'ai au courant d'un cas à travers des amis qui ont perdu une de leurs amies qui s'est enlevée la vie là, à cause du COVID. Elle était fragile, bien sûr, mais elle voyait plus d'issue, elle voyait ça comme étant la fin du monde, etc. Alors, moi, je crains qu'il y a des personnes qui basculent. C'est pour ça que c'est très important d'entretenir clairement la vérité, parce que ce que je vais dire là, c'est une vérité, que ce qu'on traverse, c'est une période. C'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui a une fin. Ça, il faut se le répéter. Parce que ce qu'on nous présente, là, c'est comme si ça ne faisait que s'accroître et que ça ne finira jamais. Et ça, il faut sortir ça de la tête. Il faut ramener son attention sur le fait que c'est une période, que ça va avoir une fin, que si on a perdu son emploi, on va pouvoir mettre en place les mesures nécessaires pour en retrouver un. Que si son entreprise s'est arrêtée temporairement, elle va recommencer à fonctionner. C'est très important de se répéter ça, parce que comme le cerveau privilégie de mettre l'attention sur la menace, il ne va pas dans ça. C'est pour ça que ça demande de la vigilance et de la discipline, pour ramener l'attention là-dessus. Parce que le cerveau, il va déraper, lui. Il va aller vers l'obscur, le menaçant, puis il ira pas vers « Hey, 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 minute là! » Oui, c'est dur. Oui, il faut pas faire de déni. Oui, il faut se protéger. Mais il y a aussi un oui par rapport au fait que ça va avoir une fin. On sait pas quand, mais ça va en avoir une. Il y a des pays où la courbe a commencé à fléchir, à descendre. Ça, on le voit pas assez. Moi, je crois qu'il y a des endroits où on ne nous montre pas ça parce qu'on veut qu'on entretienne encore nos comportements adéquats. Et que si on nous montre la courbe qui recommence à descendre, il y a des gens qui vont cesser d'avoir les comportements adéquats. Mais il faut aussi avoir des images encourageantes pour se dire « Hey, ça marche ». Ça marche, les comportements adéquats. Donc, je vais continuer à avoir un comportement adéquat parce que dans peu de temps, on va voir la courbe descendre ici aussi, comme ça a commencé à descendre ailleurs.
Absolument.
Ça, c'est bien important.
Est-ce que ce n'est pas un bon moment pour penser à se créer des nouvelles habitudes, à se renouveler aussi, à avoir ce genre d'introspection-là? Comment je peux faire pour sortir de ça avec un nouveau moi, des nouvelles habitudes, en fait?
Ben justement, regardez, hey, j'arrive à vivre là présentement avec des moyens totalement différents de ceux que j'avais. Puis je peux même arriver à passer des belles journées comme ça, sans aller dans la consommation outre mesure, sans avoir à me, je dirais, comment dirais-je ça, aller chercher, m'entourer de choses dont j'ai pas besoin, etc., etc. Hey, ben, minute, je suis capable de faire ça, là. Donc, si je suis capable, je peux le faire encore après, là. Hein? Je peux adopter un comportement présentement alimentaire différent de celui que j'avais avant. Je peux aussi l'entretenir, ce comportement-là, par la suite. Je peux me regarder, observer les émotions que je ressens. Je peux commencer à jouer avec mon attention, comme on se dit depuis tout à l'heure. Parce que c'est la chose à faire actuellement. C'est la chose à faire, gérer mon attention. Mon cerveau dérape. Il s'en va vers le menaçant, il écoute les nouvelles 3 heures par jour. Hey, je ferme la télé, là. Moi, personnellement, présentement, là, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, je sais ce que j'ai à savoir.
Tout à fait.
Ça va jusque-là. Parce que si j'écoute ça en boucle toute la journée, mon cerveau, il s'en va vers ce qu'il est habitué à faire. Il va attraper le menaçant, puis il n'est même plus capable de faire la distinction entre le conditionnel. Il y a une psychologue qui disait ça à la télévision récemment. Tous les conditionnels, ce qui pourrait arriver, sont interprétés comme ça va arriver. Le cerveau, sur le coup, là, il ne voit pas le ce qui pourrait. Il l'intercepte pas. Il attrape juste arriver. Puis il s'en va là-dedans. Puis comme il est habitué à aller vers la menace, là, ben, tout le corps réagit comme si ça allait arriver. Ça demande une vigilance extrême pour être capable d'attraper le ce qui pourrait, puis de dire wow, là. Il n'y a pas de preuve que ça va arriver. On vient juste de nous dire ça pourrait arriver. C'est super différent, ça. Puis j'ai l'occasion extraordinaire pour m'entraîner à voir ça. Puis pour ramener mon attention là, dans l'avenir, après la crise, toujours sur OK, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est juste au conditionnel, qu'est-ce qui est vraiment dans le présent, où est-ce que j'ai du pouvoir, sur quoi je peux agir, puis qu'est-ce que je dois laisser aller, sur quoi je dois lâcher prise. Occasion parfaite pour m'entraîner à faire ça actuellement.
C'est extraordinaire. Tout à fait. Est-ce que vous pensez, en fait, que ces changements-là qu'on adopte durant la crise en ce moment vont perdurer? Est-ce que vous croyez que les gens sont en mesure de maintenir, par exemple, les habitudes d'hygiène ou de consommation, que ce soit à nouveau écologique, tout ça? Est-ce que vous pensez que ce sont des habitudes qui vont perdurer?
J'aimerais tellement ça. Je l'espère. Il y a une chose que je crois qui va perdurer un certain temps, en tout cas, c'est la peur. Je crois que ça va perdurer. Je ne sais pas comment elle va se traduire. J'espère que elle ne générera pas, alors qu'on ne sera plus en crise, là, j'espère qu'elle ne générera pas des tensions inutiles entre des personnes. J'espère qu'elle ne générera pas des accusations qui ne tiendront pas la route parce qu'on ne sera pas en crise. Alors que des gens pourraient être accusés tout à coup d'avoir un comportement qui pourrait éventuellement amener de la contamination, des machins, etc. Alors, j'espère qu'on n'arrivera pas à ça, là. J'espère que les gens vont demeurer vigilants pour distinguer une période de crise d'une période qui ne l'est plus. Mais adopter des comportements sains pour eux et continuer d'être conscients que nous sommes des êtres de relation. Ça, c'est fondamental. Là où on se trompe, c'est quand on s'enferme uniquement dans son ego, qu'on se sépare. Là, la peur apparaît. Là où on se trompe pas, c'est de redevenir conscient qu'on est des êtres qui ont besoin les uns des autres, des êtres de relation. Et ça, j'espère de tout mon cœur que ça va perdurer après la crise.
Tout à fait. Vous avez, en fait, dans votre livre, Pensouillard, le hamster incarne un peu l'ego. Donc, vous avez fait la démonstration que c'est l'ego le plus grand ennemi de l'homme, finalement.
Oui. Puis, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais on a besoin d'un ego. Qu'est-ce qui arrive si je perds mon ego? » Je leur dis toujours « Inquiétez-vous pas. » Ça n'ira pas.
Jamais bien, bien loin.
Il n'est jamais très loin. Il revient même super vite. Souvent, à l'époque où on pouvait regarder des matchs de tennis à la télé, ça va revenir, ça aussi, mais je sais, aux gens, vous regardez, vous ouvrez la télé, il y a un match de tennis, puis il y a deux joueurs que vous connaissez pas, ça prend pas une minute, puis vous êtes identifié à un des deux. Parce que, je sais pas, il a pas lancé sa raquette. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est s'il gagne, vous êtes bien, puis s'il perd, vous êtes mal, tu sais. Puis une minute avant, vous ne connaissiez pas. C'est ça le phénomène de l'ego, tu sais. Alors donc, faut juste être vigilant, savoir qu'il va toujours être là, mais savoir que ce qu'on est capable de faire, c'est de l'apaiser. C'est de le calmer en jouant avec son attention tout le temps. C'est ça qui est l'enjeu principal.
Je trouve ça merveilleux. Écoutez, j'ai envie de vous dire un gros merci, Dr. Marquis, pour votre temps, pour votre générosité. En terminant, juste un mot, qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de notre entretien?
L'importance de découvrir où est notre attention. L'importance de découvrir ça. Est-ce qu'elle est tomber dans le piège de l'ego, ou si elle est dans la créativité et dans le moment présent, là où la vie se déroule.
Merveilleux. Écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande à tous de vous plonger dans la lecture de Pensouillard, le hamster, ou Egoman, le roman qui a suivi Pensouillard, qui est un peu une suite, d'ailleurs, plus approfondie du bouquin. On peut vous retrouver également sur votre site web www.tortue-marquis.com pour vos dates de conférence, pour se procurer vos bouquins. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de C'est la femme qui mène.
Merci infiniment, Geneviève, et bravo pour ce que vous faites.
Merci. Merci beaucoup.